La franc-maçonnerie moderne est née en Angleterre au début du XVIIIe siècle. C'est une conséquence des Lumières. À cette époque, de nombreuses personnes qui étaient ennemies, entre guillemets, au niveau politique, au niveau religieux, ont ressenti le besoin de se retrouver au-delà de leur clivage, au-delà de leur querelle, de leur haine. Et ils se sont retrouvés dans les premières loges maçonniques qui ont été créées à Londres. Vous aviez des gens qui étaient ennemis, qui arrivaient à parler ensemble, c'est un sacré progrès. Et vous aviez également des personnes de conditions différentes. C'est en cela qu'on a pu dire qu'éventuellement la maçonnerie a préparé la Révolution française. Personnellement, je n'y crois pas, mais en maçonnerie, vous aviez, avant la Révolution, vous aviez des religieux, vous aviez des nobles et, chose extrêmement novatrice, des bourgeois, des artisans qui se sont retrouvés dans la même salle en train d'échanger.
Et ce bâtiment alors, il date de quelle époque ?
Le bâtiment a été inauguré en 1896 parce que la loge date de 1880 et était d'abord installée dans un local loué par la ville de Porrentruy. Et au bout d'une quinzaine d'années, la ville de Porrentruy a souhaité récupérer son local et donc la loge s'est retrouvée à la rue et a décidé de faire construire un bâtiment. Et c'est un bâtiment qui est sobre, sans grande fioriture, sans grande complication. Il s'agissait à l'époque de faire quelque chose de beau, mais de relativement économique, pas trop cher.
On est dans une magnifique pièce avec des splendides tapisseries, Philippe Patureau. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de l'histoire de cette pièce ?
Alors, cette pièce, c'est ce qu'on appelle la salle humide. C'est là où nous nous retrouvons après nos cérémonies, après les tenues rituelles, pour manger ensemble et pour boire un verre. Alors, le terme humide, ça vient de ce qu'ici, on ouvre les bouteilles et donc il y a une atmosphère humide dans cette salle.
On voit sur les chaises, il y a des noms sur chaque chaise. Alors, qui sont ces gens ?
Alors, les noms que vous voyez là, ce sont des anciens membres de la loge qui sont décédés depuis longtemps. Et je dois dire que parmi les membres actuels, personne ne connaît, n'a entendu parler de ces membres.
Alors justement, il n'y a pas d'héritage, on va dire que ce n'est pas de père en fils qu'on devient franc-maçon. Comment ça se passe ?
Alors pour devenir franc-maçon, c'est une démarche volontaire. On ne va pas venir vous chercher, on ne va pas venir vous dire « écoute, on aimerait bien que tu viennes chez nous ». Non, c'est à chacun, à un moment de sa vie, de se dire « tiens, je me pose un certain nombre de questions ». Et nous proposons, je dirais, à nos membres un espace, je dirais, de bienveillance, de tolérance pour discuter de tout ce qu'on a envie de discuter.
On a des fois un peu l'envie de le comparer avec une secte. Hein. On a envie de dire, c'est vous qui tirez les ficelles.
Oui, ça me fait sourire. Vous voyez, moi, ça fait 18 ans que je suis franc-maçon. Et le complot judéo-maçonnique, ça me fait rigoler parce qu'en fait, ça ne repose sur rien. Il n'y a pas d'organisme mondial. Il y a des relations avec d'autres loges. En France, la maçonnerie a connu certaines dérives et je suis, en tant que Français, personnellement bien content d'être franc-maçon en Suisse, où la franc-maçonnerie, pour moi, me paraît tout à fait saine.